Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren.
Dernières interviews, dernier meeting, dernière force dans la bataille. La campagne s'achève ce soir à minuit pour le premier tour des élections législatives, avec évidemment un degré d'incertitude très fort et beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir. Dans quelle ère allons-nous entrer juste après? Avec qui comme Premier ministre? On n'a pas encore la réponse. C'est ce qui fait aussi la saveur de l'actualité. Et c'est ce qui donne aussi du poids aux analyses que vous allez écouter, qui sont celles de nos débatteurs, qui prennent du recul, comme vous le savez, sur tous ces événements où ils essaient de nous apporter de l'information. Le 7 juillet, les choses seront jouées, ou du moins ce sera le début d'une nouvelle histoire. Tous les sondages donnent une avance assez confortable au Rassemblement national, mais le nouveau Front populaire gagne également des points dans les sondages, renforcé pour le RN par la frange des Républicains alliés à Éric Ciotti. Donc on a 36% à peu près des intentions de vote. Ça, c'est le sondage Elabe, comme pour l'IFOP et Ipsos la veille. Voilà où on en est côté sondage. Et donc, le Front populaire est autour de 29. Et puis, la majorité macroniste sortante est autour de 19,5-21%. Voilà comment les choses se tiennent. Alors, les questions qui se posent pour nous, c'est le positionnement, les prises de position. Quel regard porter sur cette élection? Et en particulier, dans le monde catholique et chrétien au sens large, il y a eu quelques mobilisations. La coordination chrétienne contre l'extrême droite place Vauban dimanche dernier, par exemple. Et puis, il y a aussi des prises de parole, des tribunes. On va essayer d'en discuter avec nos trois débatteurs. Jean-Pierre Denis est son retour ce matin, écrivain et journaliste. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Louis.
On est ravis de vous accueillir de nouveau sur cette antenne.
Ah bah oui, ça fait longtemps qu'on ne m'aviez pas invité.
Bah oui, mais donc... écoutez, moi je croyais que vous étiez fâché ou alors vous étiez en vacances. Mais on est très heureux de vous avoir.
Très heureux aussi.
Vous venez de publier aux éditions Ad Solem, Nul n'est censé ignorer la météo. Mais de quoi s'agit-il? Je ne savais pas que vous étiez transformé en Jacques Kessler.
Alors je ne peux que vous inciter à lire ce recueil de poésie. Je ne doute pas que vous lisiez beaucoup de poésie. Voilà, c'est une réflexion un peu métaphysique, mais c'est la métaphysique d'un idiot. Vous savez, moi, la poésie, c'est pour les enfants. Hein.
Mais ce n'est pas votre premier recueil de poésie, d'ailleurs.
C'est mon septième recueil, oui, voilà. Chez Ad Solem.
Alors, on verra si vous êtes poète ce matin. On va voir comment les choses se déroulent. Antoine-Marie Zohar dirige la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Notre-Dame.
Merci beaucoup également d'être là. Elisabeth Geffroy est avec nous aussi. Elle représente le mensuel La Nef. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Louis.
Et donc, merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Je précise que vous êtes normalienne, agrégée et professeure de philosophie. Allez, on va commencer sur... commencer et finir, puisque c'est quasiment monothématique ce matin, ça sera sur les élections législatives. Je voulais savoir vous-même comment, au bout de ces 15 jours, dans quel état d'esprit vous êtes après 15 jours de campagne de la dissolution, au moment où on est aujourd'hui. Antoine-Marie, est-ce que les choses, votre appréciation des choses a évolué en 15 jours? C'est-à-dire, est-ce que cette campagne a servi à quelque chose?
D'abord, merci de donner la parole. Moi, je ne m'en remets toujours pas, en fait. Je suis toujours sous le coup de cette annonce vers 21h du président de la République au soir des élections européennes qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est un pari, pour le moins, très risqué, voire fou, totalement fou. Fou, non pas pour le résultat des urnes dans deux semaines, pas tant pour ça, que parce que ce sera forcément le miroir, la vitrine de la réalité politique du moment. Mais quand même, il savait ce qu'il faisait, inévitablement, il y avait réfléchi, c'est ce qu'il nous dit depuis quelque temps maintenant, il a commencé à en faire l'exégèse au bout de quelques jours, j'y pense depuis un petit moment, enfin voilà. Moi je pense qu'on saura dans deux semaines, mais peut-être plus à la fin de l'été, s'il a eu raison d'allumer, de craquer une allumette alors que le pays est assis sur un baril de poudre. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le pays est en mauvais état, on sait qu'il y a un an, il y avait, à cette date-ci, il y avait des émeutes dans les rues de région parisienne et de très nombreuses métropoles en France. Je suis très surpris par ce pari risqué. Je suis très inquiet par ce qui va sortir des urnes d'une France totalement ingouvernable. Elle l'était déjà, c'est un fait. On va certainement s'en parler ce matin tous les.
Et elle le sera encore plus.
Mais elle le sera encore plus. Et il y a qu'à voir les débats encore d'hier soir. C'est lunaire en fait.
Jean-Pierre Denis.
Bruno Retailleau, le sénateur républicain, vous savez, c'est un parti politique qui a longtemps gouverné la France.
C'est qui les républicains ?
Il a une formule que je trouve très juste. Franchement, j'aurais aimé lui piquer. Il a dit « Emmanuel Macron, c'est pas un extrême centrisme, c'est un extrême égocentrisme ». Et il y a, je pense, beaucoup de ça. Et c'est vrai que c'est assez troublant de voir un pays soumis à cet égocentrisme. Au fond, c'est un homme à qui rien n'a jamais résisté, qui s'est toujours fait fort de transgresser et à qui cette transgression a toujours réussi. On regarde l'ensemble de son parcours, c'est assez frappant. Pour citer évidemment son arrivée à la présidence de la République. Et je pense qu'on l'a
Il a été élu quand même.
Oui, c'est pour ça que je dis ça a toujours, ça lui a toujours réussi. Et finalement, il n'a jamais connu l'échec. Tiens, peut-être à part à Normal Sup. Donc, il n'a jamais connu l'échec et il a toujours pensé qu'il était suffisamment intelligent, peut-être plus intelligent que vous et moi, et qu'il allait donc vous expliquer. C'était la fameuse formule de Gilles Legendre, je crois, qui malheureusement pour lui n'a pas été réinvesti, comme quoi ils sont quand même parfois assez ingrats, où la politique est assez dure. C'était, on était trop intelligent, donc sous-entendu, les électeurs sont des idiots, ils n'ont rien compris. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est dit, une fois de plus, comme avec les Gilets jaunes, comme d'ailleurs au moment des retraites, les Français n'en voulaient pas, l'Assemblée nationale n'en voulait pas, mais on va leur expliquer parce que c'est, on est plus intelligent qu'eux. Il s'est dit, ben, je vais dissoudre et ils vont comprendre que je suis plus intelligent qu'eux et ils vont se rallier. Et cette fois-ci, c'est il semblerait que ça n'ait pas marché.
Bah, il est trop tôt pour le dire.
Bah, si. Enfin, franchement, évidemment, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises. Bah, on peut imaginer une victoire surprise de la gauche, par exemple. C'est pas du tout impossible. Il y a un décalage qui est de 4 ou 5 points. Bon, on a une campagne qui est très très courte, qui permet pas vraiment de faire bouger les choses. Mais en fait, on ne sait pas. De toute façon, une élection, tant qu'elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu. Mais quand vous êtes à 20 points, vous l'avez évoqué, quand vous êtes à 20 points dans les sondages contre
pour Renaissance,
pratiquement,
hein.
Pour Renaissance contre pratiquement deux fois plus pour le Rassemblement National, il y a assez peu de chances que le rapport de force s'inverse. L'hypothèse la plus probable, je ne dis pas que c'est ça qui va se réaliser, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit une assemblée ingouvernable et donc une France encore plus enfoncée dans le chaos. Parce que si y a des raisons de redouter ce que pourrait être telle ou telle majorité, il y a des raisons encore plus grandes de redouter ce que pourrait être une situation dans laquelle il n'y a pas de majorité dans un pays qui n'a pas la culture du compromis. On n'est pas les Belges, les Néerlandais, les Allemands. Vous pouvez avoir en Autriche un parti conservateur qui fait une coalition avec des Verts et ça se passe, enfin ça se passait jusqu'à il n'y a pas longtemps pas si mal. Donc ça c'est absolument impensable en France.
Il y a un consensus libéral en Autriche. Consensus libéral.
Bah, il y a un consensus, il y a une culture du compromis dans beaucoup de pays européens et en France, bah, on ne l'a pas.
Ingouvernable, hein, c'est le terme qui revient le plus souvent. Alors, Elisabeth Geffroy, quant à vous, cette campagne donc a duré 15 jours, une campagne express. Dans quel état d'esprit êtes-vous, pour reprendre la même question ?
Oui, je partage le constat de mes deux interlocuteurs. De la part d'Emmanuel Macron, on a effectivement l'impression que c'est la réaction d'un orgueil blessé ou une sorte de leçon donnée à un peuple qui aurait mal voté. En tout cas, c'est assez surprenant sur les motifs même psychologiques. En fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a une sorte d'arrivée par effraction du psychologique, je trouve, dans le débat politique, parce que c'est tellement compréhensible qu'on en vient à changer le plan d'explication pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais en fait, sans même devoir invoquer du psychologique, je pense que on en arrive au... En fait, Macron récolte ce qu'il a semé et on en arrive au point d'aboutissement du macronisme. Toute la stratégie d'arriver au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'était de dire il y a moi et des extrêmes. Il y a moi, c'est-à-dire le camp progressiste et les populistes. Et à force d'avoir essayé de faire table rase autour de lui, d'éliminer peu à peu la gauche et la droite dites de gouvernement, on se retrouve effectivement avec trois blocs ultra polarisé, dont deux qualifiables par beaucoup d'extrêmes. Mais c'est lui qui a voulu instaurer cette espèce de chandrine où il serait, puis il peut en arriver, face à nous en disant c'est le chaos moi, la social-démocratie ou le chaos. Mais à un moment où le moi en question est très décrédibilisé, donc où effectivement il peut enfoncer la France dans une impasse. Et je pense que c'est vraiment une faute très grave de la part d'Emmanuel Macron que certains diagnostiquent depuis longtemps, qui est que en fait, ce logiciel droite-gauche qu'il a voulu abolir, c'était le référentiel dans lequel s'organisait la discussion publique, le débat civique. La démocratie, c'est pas juste l'exercice formel du vote de temps en temps. C'est un art de la délibération. C'est un certain état de la discussion publique. Et il se trouve que cet échange d'idées qui permettait aussi l'alternance politique, c'est tout le cœur de la démocratie. Et c'était permis par le clivage droite-gauche. Il a voulu jouer avec ce jouet-là, il l'a cassé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là.
De fait, s'il n'y a plus que les extrêmes, le mot extrême en soi signifie que la personne n'est pas légitime pour discuter.
Tout à fait.
Donc, on discute après.
C'est exactement ça. Il a joué sur la disqualification de l'adversaire au lieu de jouer le jeu du débat d'idées jusqu'au bout.
Est-ce que cette campagne vous a convaincu, les 15 jours de campagne, est-ce que ça change l'état d'esprit ? Là, c'est une question que je vous pose à tous les trois, Elisabeth. Est-ce que cette campagne a servi à quelque chose, les débats qu'on a eus, les débats télévisés en particulier, ou est-ce qu'on est saturé de débats télévisés ?
Bah, c'est assez intéressant. Je me faisais la réflexion en regardant le... Je n'ai pas pu le regarder en entier, mais je regardais le débat sur TF1 entre Attal, Bardella et Bompard.
Et Mardi soir.
Et ça me faisait penser à une analyse de Christophe Guilluy que le Figaro a fait paraître le lendemain de l'élection européenne, où Guilluy reprenait son éternelle distinction entre la France d'en haut, la France d'en bas, la France périphérique, la France des métropoles. Et où il disait que cette élection européenne montrait plus que tout qu'on avait ces fractures françaises. Et lui disait, je ne crois que je ne parle même plus de fracture, je parle de schisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un fossé entre deux types de France. Et la cartographie des résultats des élections européennes était extraordinaire à regarder, enfin extraordinaire et assez inquiétant. Le vote RN à Paris, c'est 8,5%, c'est 31% dans le reste de la France. Donc il y a évidemment ce vote qui a révélé ce schisme entre deux France, et Guilluy parle de bulles culturelles, de bulles sociales, et de deux France qui ne parlent même plus le même langage. Et en fait, il dit, on ne se rend pas compte à quel point il y a une forme d'autonomie, de contre-culture, en fait, de cette France d'en bas, qui a pris son autonomie culturelle au point que le discours médiatique et le discours politique ne forgent plus son opinion. Et donc, ces débats deviennent des exercices assez formels, qui n'ont plus de prise, vraiment, qui n'accrochent plus dans l'esprit des gens, et qui, à mon avis, peuvent remobiliser des bases, mais n'ont plus le pouvoir de faire évoluer, vraiment, l'état du débat politique ou le vote des gens. Et donc, on en arrive à des débats qui ont beaucoup moins de sens. Houellebecq disait, je crois qu'il s'étonnait toujours de voir se déverser des heures et des heures de débats sans que jamais un mot ne soit dit. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
C'est votre avis, Jean-Pierre, Antoine-Marie ?
Oui,
ça tourne un peu à vide, en fait, tous ces débats. Ça ne sert pas à grand-chose.
En même temps, c'est une campagne qui est trop courte pour qu'il puisse y avoir vraiment l'espace d'un débat. Et d'ailleurs, c'est un des reproches qu'on peut faire à cette décision du président de la République, c'est justement de tuer le débat dans l'œuf. Parce que, franchement, on n'a pas le temps de se faire réellement, à supposer qu'on ne l'ait pas déjà. Alors, peut-être que l'idée, c'est qu'on a déjà, chacun d'entre nous, une opinion. Mais enfin, une campagne, en théorie, ça sert à ça. On voit d'ailleurs des mouvements dans une campagne. Il y en a eu dans la campagne des européennes. Par exemple, la liste de Glucksmann est remontée lentement jusqu'à tutoyer celle du parti de gouvernement. Donc, il y a des mouvements dans une campagne électorale. Là, il n'y a pas le temps d'un mouvement. Je voudrais aller dans le sens que vous disiez à l'instant, sur ajouter à la géographie la sociologie, qui est aussi très frappante, en particulier quand on regarde la jeunesse. Aujourd'hui, il y a deux jeunesses, au fond, en France. Il y a une jeunesse urbaine qui fait des études, qui appartient sans doute plutôt à ce qu'on appelait autrefois la bourgeoisie. Cette jeunesse, elle est radicalisée vers la gauche, en général, et donc vers LFI. Il ne viendrait pas du tout à l'idée de voter pour un vieux truc qui s'appelle le Parti Socialiste. Et puis, il y a une autre jeunesse qui est en miroir, qui ne rencontre jamais la première, qui ne la rencontrera jamais, qui vit dans des territoires dans lesquels cette première jeunesse n'ira pas, parce qu'en fait, elle est plutôt à l'aise dans la mondialisation, elle se sent en phase avec la jeunesse de New York, avec celle de Londres, et cette deuxième jeunesse, elle vote assez nettement, assez massivement pour le Rassemblement National. Donc on a cette polarisation ne laisse d'ailleurs aucun espace, ou un espace en tout cas assez réduit au centre pour, disons, une certaine modération. C'est quelque chose que l'on peut comprendre d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, il est normal que la jeunesse soit, disons, plus excessive dans ses opinions que les générations plus âgées, ça s'est toujours produit comme ça, mais cette fois-ci c'est particulièrement frappant.
En fait, c'est la puissance des frontières, hein, qui ressurgissent, ouais, comme ça dans les territoires. Il y a des frontières, des murs.
En tout cas, je me dis, moi, il y a quelque chose de... Alors, la comparaison, pardon, est peut-être pas très pertinente, mais je crois qu'elle l'est quand même un peu. Il y a quelque chose d'un peu de ce qui s'est passé en 68 avec l'émergence d'une jeunesse qui est complètement en désaccord avec les générations qui l'ont précédée. Peut-être, là je parle davantage de ceux qui votent pour l'extrême gauche. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment marquer profondément la société française.
Antoine-Marie Isoard, là-dessus, est-ce que vous partagez les analyses avant de passer à d'autres questions ?
Non, mais évidemment, on peut difficilement ne pas rejoindre, entre autres, ce que disait Elisabeth Geffroy sur cette France des élites, sur cette carte. Je ne sais pas si vous avez vu la carte qu'a publiée, je crois, Le Monde au lendemain des élections. Vous voyez cette France bleue, j'allais dire marine, mais en l'occurrence, ce n'était pas du bleu marine, c'était du bleu très foncé, pour dire, voilà, ça, c'est la France RN, où on avait voté dans toute la France, à l'exception de Paris et l'Île-de-France, et peut-être un peu de l'Ouest parisien, suivez mon regard, pour le RN en majorité. Et puis vous aviez un îlot central, effectivement un îlot central, totalement déconnecté du reste du pays, où on avait voté pas mal Macron, et un peu à droite dans les deux arrondissements parisiens, et puis le voilà. Enfin, quand je dis à droite, je sentais à la droite que j'ai connue quand j'étais petit, enfin, vous voyez ce que je veux dire. La droite de gouvernement. Ah, effectivement, on est tous d'accord pour dire que ça a été sa façon de gouverner et d'arriver au pouvoir. Emmanuel Macron a dispersé, dynamité, explosé, comme disaient les tontons flingueurs, façon puzzle, les partis de gouvernement. Et le résultat des courses, c'est qu'il a fini par dynamiter son propre parti. Parce que, comme les uns, c'était totalement poreux. Il a facilité cette porosité. Cette porosité s'est faite avec le macronisme. Elle se fait encore, où il y a encore des gens de LR qui, jusqu'au dernier moment, continuent à passer chez les macronistes. Il y a quelques socialistes, mais il y a surtout l'inverse qui s'est produit maintenant. Et c'est là qu'en fait, il n'avait pas probablement tout pesé. C'est que ça part vers la gauche, ça part vers la droite, et vers les extrêmes des deux côtés, et que finalement les extrêmes ne sont plus des extrêmes, c'est des extrêmes très larges, à droite comme à gauche, parce que on peut parler d'extrême droite, mais quand vous avez tout le clan Ciotti qui part vers Marine Le Pen et Jordan Bardella, ben vous pouvez plus parler d'extrême droite. Tout ça a été quand même pas mal nettoyé aussi.
Alors justement, je vous arrête.
On en reparlera, mais
non, mais c'est important.
Et c'est pareil à gauche finalement. Et c'est pareil à gauche parce que vous avez le PS, les écolos qui ont rejoint ce front totalement improbable, totalement hallucinant en fait, avec des idées inconciliables. La seule volonté, c'est de gagner, de l'emporter et de faire barrage. Le faire barrage, moi, commence à m'insupporter, de droite comme de gauche.
Est-ce que, justement, la dénomination extrême, est-ce qu'on peut d'abord renvoyer dos à dos les extrêmes ? Est-ce que le terme d'extrême est un qualificatif suffisamment éloquent dans la mesure où on a le sentiment d'avoir déjà à l'intérieur de ces pôles très polarisés, comme vous l'avez dit, en fait, des coalitions,
mais
des coalitions
très ententes. C'est faire le jeu d'Emmanuel Macron, de toute façon, parler d'extrême. Pourquoi pas ? Il y a bien des positions extrémistes à droite et à gauche. Mais c'est faire le jeu, de toute façon, d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a une forme de... Je suis désolé de dire ce mot-là, mais il y a une forme de fascisme à gauche comme à droite. La violence, l'utilisation de la violence à l'Assemblée nationale ou de faire descendre les Français dans la rue, ce qui est une démarche proprement, enfin aujourd'hui, très soutenue à l'extrême gauche, donc par M. Mélenchon et ses amis. Le désordre face à l'ordre, enfin je veux dire, avec un ordre bien droit dans ses bottes. Mais voilà, donc je ne sais plus où est le fascisme, en fait, pardon d'utiliser ce gros mot. Mais je refuse en tout cas qu'on dise il y a un parti fasciste. Et un autre qui ne l'est pas, en fait.
Voilà. Le fascisme a-t-il changé de camp ? C'est la question.
Je ne suis pas sûr qu'il ait changé. Je pense qu'il en reste un peu partout.
En tout cas, il faut...
Elisabeth Geffroy.
Il faut accepter de confronter les mots aux réalités en face.
Oui, mais ce n'est pas simple, parce que l'emploi des mots est une facilité. C'est une facilité linguistique.
Je suis bien d'accord.
À quelle réalité ça correspond ? Est-ce qu'on peut encore utiliser ces mots ?
En tout cas, si on prend historiquement ce que signifiait... Si on prend le cas de l'extrême droite, historiquement, l'extrême droite, ça a quand même des critères que les historiens ont essayé de dégager. Donc, on peut avoir des débats, mais il y avait des ingrédients qui mettent tout le monde d'accord. Une forme d'anti-parlementarisme, la menace ou le chantage de la violence de rue, l'antisémitisme, le racisme, le refus des institutions, ou en tout cas la mise en danger des institutions. Bon, tout ça, c'était des ingrédients qui étaient quand même constitutifs de ce qu'on a appelé l'extrême droite. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on en trouve beaucoup d'ingrédients au Rassemblement National. Il leur reste, en tout cas, ils ont une fibre populiste de toute évidence, c'est un parti populiste, et on peut dire aussi démagogue, qui parfois joue sur certaines facilités de réponse, de diagnostic, et qui va peut-être un peu trop dans le sens de certaines passions. Mais est-ce qu'il reste un parti d'extrême droite ? J'ai du mal à en voir certaines traces aujourd'hui. À l'inverse, si on reprend ces ingrédients-là, effectivement, moi, j'en retrouve énormément chez LFI. Et donc, par extension, dans le Nouveau Front Populaire. La violence de rue, le chantage au chaos, c'est ce qu'ils nous brandissent depuis le début de leur... Enfin, en tout cas, depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale et surtout depuis cette dissolution. Leur antisémitisme, malheureusement, et vraiment malheureusement, il n'est plus à démontrer, j'ai l'impression, en tout cas, parmi les rangs de LFI.
Sauf qu'à gauche, on dit qu'il est accidentel, alors qu'à droite, on dit qu'il est ontologique.
Mais c'est incroyable, ça. Enfin, c'est...
Non, mais c'est...
C'est vraiment...
C'est ce qui a été dit, hein.
Mais bien sûr, c'est extraordinaire. C'est le pas de plus vers l'acceptation de l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est un antisémitisme qui, justement, contrairement à ce qu'ils disent, ne devient plus accidentelle, mais qu'on fait rentrer dans un cadre de pensée, et donc qu'on peut d'autant plus installer et légitimer. C'est extrêmement grave, et c'est ahurissant. Moi, vraiment, j'étais effarée devant cette séquence, de voir à quel point on a laissé passer cette chose-là. On l'a commentée, mais en fait, on la laisse passer. Moi, je suis vraiment sciée d'assister à ça. Et tout, c'est eux qui légitiment l'usage de la violence. Ils ne parlent jamais de dissoudre leur propre groupuscule hyper violent. Ils se sont habitués au spectacle de violence, que ce soit dans les émeutes, lors des émeutes de juin, dans toutes les manifestations, les Black Blocs, Sainte-Soline, etc. Enfin, vraiment, s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui reprend les ingrédients de ce qui était cette extrême droite-là, aujourd'hui, elle est chez LFI.
Et pourtant, Gérald Darmanin a dissous trois groupuscules d'extrême droite, là, récemment.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais à l'extrême gauche, on attend peut-être toujours.
Ah bah...
Oui, alors Jean-Pierre Denis.
On attend toujours. Moi, j'attends pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis absolument contre ces dissolutions. Vous pouvez imaginer que j'ai pas une énorme sympathie pour le GUD. Hein. Je suis pas en train de défendre le GUD à votre antenne. En revanche, je suis préoccupé. Et c'est pas nouveau. Je suis préoccupé. Je l'étais déjà sous Sarkozy. Je l'étais sous Hollande et je le suis encore aujourd'hui. Et en particulier quand j'ai vu toutes les dissolutions décidées par Gérald Darmanin, je suis préoccupé parce que je suis attaché aux libertés publiques, je suis attaché à la liberté d'expression et je suis assez inquiet de voir que finalement on prend l'habitude, on se résigne à dissoudre des groupes alors qu'en fait, s'ils ont fait des choses qui sont contraires à la loi, si telle ou telle personne a fait des choses qui sont contraires à la loi, qu'elle soit poursuivie. Mais dissoudre ces groupes, ça fait plaisir. Parce qu'évidemment, il se trouve que j'aime pas le GUD. Donc je vais dire, je suis très content qu'on ait dissous le GUD. Mais le jour où on va dissoudre un autre groupe, un autre pouvoir va arriver et va dissoudre d'autres groupes. En fait, tout est en place pour une évolution vers la démocratie illibérale. Et c'est ça qui me préoccupe et que je trouve on ne voit pas, alors que ça vient. Ça a commencé déjà avec des états d'exception. Il y a toujours des bonnes raisons de mettre à bas les libertés publiques. Moi, je trouve qu'il faut les défendre, y compris quand ce sont les libertés de ceux que nous détestons. Ensuite, il y a la question de l'antisémitisme. Je pense que la question de l'antisémitisme a été... Le virus a été délibérément sorti de son laboratoire et mis sur le terrain public pour des raisons électoralistes qui ont d'ailleurs fonctionné. Il faut dire que ce choix a réellement fonctionné pour LFI pendant la campagne européenne. Je suis vraiment absolument désolé de ça. Pour moi, il n'y a pas de différence de nature entre un bon antisémitisme de gauche et un mauvais, ou je ne sais pas, ou le contraire. Vous voyez, ça ne veut rien dire. En fait, l'antisémitisme, il est partout. Historiquement, il est partout. Il se trouve que je connais un petit peu cette question. Il était chez les Romains, il était chez les catholiques, il était chez les luthériens, et pas que un peu. Il était chez, évidemment, les fascistes, il était chez les communistes, et pas que un peu. Et aujourd'hui, il est là, il est là. Donc il faut l'identifier là où il est, et le dénoncer, et le combattre là où il est. C'est pas autre chose qu'un virus qui mute dans l'histoire et qui aujourd'hui est là.
Jean-Pierre Denis, Antoine-Marie Zohar, Elisabeth Geffroy. La suite du grand débat juste après les infos de 8h. On va parler plus particulièrement des prises de position des cathos. Que faire dans cette élection? Vos avis, vos analyses à suivre après les infos de Simon Tatro.
Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
Cette semaine, dans Planisphère, nous allons parler de la bombe atomique. Qui la possède et pourquoi? Est-elle toujours une arme de dissuasion? Peut-on vraiment s'en servir? La paix par la bombe atomique, c'est cette semaine dans Planisphère.
Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h. Cette année, 17 séminaristes ont répondu à l'appel du Seigneur et se préparent à être ordonnés prêtres à Paris, Versailles, Nanterre, Meaux, Créteil et Évry. Vous êtes invités à rendre grâce en vous unissant par la prière. Retrouvez leur parcours, les dates et horaires des ordinations sur le site œuvredesvocations.fr. Pour contribuer à la formation des futurs prêtres, envoyez votre don à l'œuvre des vocations, 15 rue des Ursins, 75 004 Paris, ou faites un don en ligne sur œuvredesvocations.fr.
Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican.
En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. Ce mercredi, le pape a débuté sa catéchèse en revenant sur le credo.
Minuit 30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église, c'est tous les jours et même la nuit.
L'opération générosité, c'est pour maintenant. Si vous n'avez pas versé votre bol, vous savez, cette opération, ça nous emmène donc du 21 juin jusqu'au début du mois de juillet. Vous pouvez aller sur le site sécurisé Radio Notre-Dame et puis faire un don tout simplement. Vous savez qu'il y a le Radio Don au mois de décembre et puis l'opération générosité. On vous le dit suffisamment, la radio vient exclusivement de votre participation. Allez, les infos de 8h, c'est avec Simon Tatro et le grand débat revient juste après.
Le rendez-vous était très attendu, le duel entre Joe Biden et Donald Trump, le locataire démocrate de la Maison-Blanche et son prédécesseur républicain s'affrontaient ce jeudi 27 juin lors d'un débat de 90 minutes organisé par CNN. Après 1h30 de débat, les deux hommes ont quitté la scène du plateau de CNN à Atlanta. Qui est sorti vainqueur de ce duel ? Joe Biden, 81 ans, est apparu en difficulté plusieurs fois dans sa manière de s'exprimer. Mais Donald Trump, dans ses propos outranciers, n'est pas sorti de son personnage. Nos confrères de CNN indiquent que plusieurs membres du Parti démocrate s'inquiètent de la performance de Joe Biden au point d'envisager son retrait de la course à la Maison-Blanche. Autre grand rendez-vous politique, le débat des législatives. Gabriel Attal pour le camp présidentiel, Jordan Bardella pour le Rassemblement national et Olivier Faure pour le nouveau Front populaire. À 3 jours du premier tour des législatives, les représentants des 3 blocs donnés en tête du scrutin se sont retrouvés pour un ultime débat sur France 2 ce jeudi. Pouvoir d'achat, binationaux, exercice du pouvoir. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ce débat. Ils ont été déboutés hier. Les membres historiques du bureau du Parti des Républicains ont saisi la justice pour désigner un mandataire ad hoc pour remplacer Éric Ciotti, très contesté depuis son alliance avec le Rassemblement National. Le tribunal, saisi via une procédure d'urgence, a donc rejeté la demande signée par 703 membres du Conseil National des Républicains qui exigeait la nomination d'un mandataire ad hoc si Éric Ciotti ne convoquait pas un nouveau bureau politique avant mercredi 18h30. Emmanuel Macron a pris la parole tôt ce matin en marge du sommet européen à Bruxelles et s'est prononcé contre les propos tenus ces derniers jours par des responsables du Rassemblement national sur les binationaux. Le parti d'extrême droite qui caracole en tête des intentions de vote pour les élections législatives du dimanche 30 juin propose d'interdire certains emplois sensibles aux binationaux. Le député RN Roger Chulot a indiqué que les futurs ministres pourraient être concernés par cette mesure. Un avis personnel qui n'engage pas son parti. Selon lui, la France s'est construite par de grandes figures. Je rappelle que parmi les premiers élus de la République, il y eut des non-français qui ont fait notre République. Pouvoir dire cela aujourd'hui, c'est une dissolution des esprits et des consciences. Je ne m'y résous pas et je ne m'y résoudrai jamais, quoi qu'il arrive, a déclaré Emmanuel Macron. Et puis la consommation moyenne de viande par habitant a reculé de 5,8% en 20 ans en France. Le déclin affectant singulièrement la viande bovine, moins 19% depuis 2003 selon une note statistique officielle qui a été publiée hier, jeudi donc. Les Français consommaient en moyenne 26,3 kg d'équivalent carcasse de viande bovine en 2003 contre 21,3 kg l'an dernier. C'est ce qui est rapporté par une synthèse publiée par le service statistique du ministère de l'Agriculture et l'établissement public France Agrimaire.
Éric Picard.
L'émission Le génie du christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines. Culturelle, artistique, philosophique, sociale, économique et politique, et bien sûr, religieux.
Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les vendredis à 15h et le dimanche à 22h30.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ?
Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
Certifié Calibat et RGE.
Chaque semaine, comme une respiration dans le torrent médiatique, Marie-Ange de Montesquieu interroge Monseigneur Laurent Ulrich sur les sujets qui vous touchent. Envoyez vos questions à l'adresse marieange.demontesquieu@radionotredame.com et pour écouter ses réponses, rendez-vous chaque samedi à 8h45 et le dimanche à 7h45.
Le grand débat.
Le grand débat.
Louis Dauphren.
En présence de Jean-Pierre Denis, écrivain, journaliste et poète, Elisabeth Geffroy au nom du mensuel La Nef et Antoine-Marie Zohar qui représente la rédaction de Famille Chrétienne. Allez, on va parler justement des chrétiens en politique. Il y a des études qui ont été faites, un sondage IFOP pour La Croix. Aux européennes, le vote des catholiques pratiquants s'est porté à 42% sur le RN, 14% sur le LR, sur les LR, 12% sur Renaissance et 21% sur un parti de gauche, nous dit-on. Il y a évidemment des positions qui sont plus ou moins urticantes selon le camp auquel on appartient ou la sensibilité, vous trouverez le mot que vous voudrez, que ce soit sur les migrants, la fin de vie, l'IVG. Aucun parti ne peut satisfaire pleinement un chrétien, c'est ce qu'a dit l'évêque de Limoges, Monseigneur Bozzo, qui constate que les gens n'ont pas besoin de la vie des évêques. Est-ce que justement c'est votre opinion, Elisabeth Geffroy, Jean-Pierre Denis, Antoine-Marie Zohar, Elisabeth?
Oui, enfin en tout cas on veut pas... On n'attend pas des évêques une consigne de vote, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, la question c'est... en tant que chrétien, en tout cas, on est confronté à certains dilemmes face à une élection politique comme celle-ci, où visiblement aucun parti, effectivement, ne semble être une solution parfaite au regard de ce que sont les principes qui tiennent à cœur à l'Église. Benoît XVI avait fait paraître... une note à la demande de Jean-Paul II où il avait identifié des principes non, ce qu'il avait appelé les principes non négociables. En fait, l'idée derrière, quelle était-elle? Tout simplement, le chrétien, quand il réfléchit en politique, ne s'avance pas dans un champ complètement vide. La réflexion de l'Église l'a devancé et donc il n'est pas laissé seul avec sa raison naturelle, son discernement et son bon sens. L'Église l'éclaire et lui dit, notamment, il y a certaines exigences éthiques fondamentales auxquelles il ne faut pas renoncer. C'était les termes de Ratzinger dans ce texte que lui avait commandé Jean-Paul II. Et dedans, il examine, enfin, en tout cas, il nous propose certains points à l'aune desquels, notamment, il faut pouvoir confronter son vote. Par exemple, le respect inconditionnel de la vie, la promotion de la famille au sens de l'union d'un homme et d'une femme, le respect de la liberté éducative, la promotion de la paix, la lutte contre toute forme d'esclavage, etc. Il y en avait plusieurs. Et le but de cette liste n'était pas d'être exhaustive, c'est simplement de reprendre toute la tradition sociale de l'Église qui est de dire on ne tranche pas le dilemme politique prudentiel particulier. Chaque société affronte des problèmes ou des problématiques qui lui sont complètement propres. L'Église n'a pas à se déterminer en disant ce parti-là est le mien. Le vote catholique, c'est-à-dire universel, il n'y a pas un seul vote catholique. En revanche, elle nous donne un phare dans la nuit, des principes en fonction desquels on peut se déterminer. Et donc, pour moi, le rôle de l'Église est de rester dans cette tradition sociale qui est de nous donner des grands principes et des éclairages, et ensuite de laisser les chrétiens réfléchir par eux-mêmes et discerner en utilisant ce qu'on appelle justement la raison naturelle.
Mais ces grands principes, si vous y tenez, ça vous empêche de voter parce que vous dites que justement personne n'est à la hauteur des principes défendus.
D'où le fait qu'il y ait un exercice de discernement, d'où le fait, pas forcément, parce que s'il n'y a aucun parti parfait ou qu'on pense que certains sont beaucoup plus mauvais que d'autres et que ça a un sens de ne pas leur donner le pouvoir, on peut effectivement voter en sachant que ce vote n'est pas parfait, en ne l'absolutisant pas et en acceptant le clair-obscur de la politique et tout ce qui est le relatif d'un choix et l'imperfection d'un choix. Mais pour moi, tout le rôle du chrétien, en tout cas, n'est pas d'aplanir la difficulté et ce sens de la contingence, mais au contraire de s'y tenir. Et donc, à ce niveau-là, on n'attend pas des évêques qui nous donnent une consigne de vote précise, mais qui continuent d'éclairer nos consciences.
Antoine-Marie Zohar.
Reste que, moi, je suis évidemment complètement d'accord avec ce que dit Elisabeth Geffroy. Alors après, il y a toute la question de la non-exhaustivité de ces valeurs non négociables énumérées par Ratzinger, reprise par Benoît XVI lui-même, qui n'était plus Ratzinger, mais qui était Benoît XVI, dans un document, une encyclique, je crois que c'est Sacramentum Caritatis en 2007, où il parle à nouveau de valeurs non négociables, mais plus largement, il parle du bien commun. Donc ça englobe quand même pas mal de choses, avec la tendance à oublier quand même parfois dans ces valeurs non négociables la question du pauvre, du migrant, que le pape François, lui, en revanche, répète à l'envi. Et c'est nécessaire. Dieu sait si quand on lui a demandé une fois ou l'autre, je me souviens lors de voyages avec lui, j'ai eu le privilège d'en faire pas mal, de dire « Mais pourquoi vous nous parlez toujours des migrants? Pourquoi vous nous parlez plus de la vie ?» Parce que les gens ne savent, en fait, parce que les gens savent très bien, les catholiques savent très bien que la défense de la vie fait partie de nos essentiels, mais que la question du migrant reste encore compliquée. Bon, donc ça, de fait, les pontificats se succèdent, ne changent guère pas trop. Tout le monde sera peut-être pas forcément d'accord derrière le poste, mais je trouve que d'une certaine façon, les valeurs non négociables, les principes sont toujours les mêmes. on appuie une fois sur l'un un peu plus, une fois sur l'autre. Donc, évidemment, on sort tous de cette discussion en disant, mais finalement, on ne peut voter pour personne. Bon. Moi, en revanche, je comprends et je préfère que les évêques ne nous disent pas pour qui voter. Je vais être très franc avec vous. Dans mon journal, il y a eu des lecteurs, lors d'élections récentes, qui nous ont demandé, mais prenez position. Je ne le ferai jamais. On ne le fera pas. La seule chose que j'imagine que les évêques, nous, je ne crois pas, mais que les évêques pourraient faire après le premier tour, peut-être, ça, on peut en discuter, c'est de nous inviter à voter blanc. Lorsque on sera face à des duels Front National, Nouveau Front Populaire.
Ça, vous pensez que c'est possible?
En tout cas, ça serait, à mes yeux, admissible. Après ce qu'on vient de dire lors de notre premier échange, là, avant les infos. C'est-à-dire de dire qu'il y a des deux côtés des choses qui, quand même, nous rebutent. Maintenant, si on parle, je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais de cette tribune des chrétiens, alors je ne sais pas exactement comment s'appelait le collectif, mais...
Coordination chrétienne, justice et espérance. Il y a eu deux tribunes. Il y a eu celle d'Elisabeth qui a répondu aussi à ce collectif.
Tout à fait.
Justice et espérance.
Moi, dans cette première tribune de chrétiens de gauche, ce qui me gêne un tout petit peu, je pinaille, mais c'est qu'elle s'appuie sur la parabole du bon samaritain. Alors, j'ai aucun problème avec la parabole du bon samaritain. Entendons-nous bien. Ce que je retiens de la parabole du bon samaritain, c'est qu'il était au bord de la route. Et que pour moi, évidemment, ça ne fait aucun doute. L'étranger, s'il est là, au bord de la route, il faut le soigner, il faut le guérir, il faut l'accueillir. Maintenant, une fois qu'il est guéri, dans le bon samaritain, je suis désolé, mais il repart chez lui après. Voilà. Alors moi, je ne souhaite pas forcément que tous les étrangers repartent chez eux, je souhaite juste qu'il y ait un peu plus de bon sens dans notre accueil, dans la question de l'accueil de l'autre, dans l'accueil de ceux qui sont en danger dans leur pays, ainsi de suite.
Et je vois que c'est la question sensible, hein, quand même. Hein. C'est vraiment la question sensible. Parce que vous êtes sur le terrain quand même de... Vous voyez, on parle des valeurs en général, des points non négociables, et on arrive sur l'immigration. On a l'impression que c'est sur ce terrain-là il y a le pouvoir d'achat et immigration, et que c'est quand même le terrain favorable du RN, quand même.
Mais parce que pour revenir à la
donc
question...
c'est lui qui place
les valeurs non négociables de Ratzinger en 2002, dans la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'époque, c'était quand même la question de la vie était au premier plan, la question du mariage homme-femme, la question de la liberté religieuse, la question de la paix était
oui,
au premier plan.
Oui, mais là, ce n'est pas l'enjeu d'élection.
Et aujourd'hui, effectivement, on a changé d'enjeu.
Jean-Pierre.
Bah, les valeurs non négociables, quand on reprend la liste qu'Elisabeth évoquait tout à l'heure, je suis désolé de le dire, mais elles sont relatives. C'est un peu paradoxal. Mais en fait, elles ont changé dans l'histoire. Vous avez évoqué l'esclavage. Évidemment, autour de ce micro, il n'y aura personne pour défendre l'esclavage. Et je pense que ce n'est pas d'ailleurs l'apanage des chrétiens. J'espère que dans la société française, personne ne défendrait l'esclavage. Dans l'histoire de l'Église, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le magistère des papes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu assez tôt des papes qui ont pris des positions en avance sur leur temps, mais c'est beaucoup plus compliqué. Prenez l'exemple que vous avez évoqué aussi mariage entre un homme et une femme. Quand on se rappelle la vivacité des débats qu'il y a eu au moment du mariage pour tous et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où ce n'est plus un sujet dans la société française, on voit que cette question, elle a beau peut-être être non négociable, elle est en fait aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle est nulle et non advenue. Donc ça, c'est la première chose.
Ça peut être un sujet pour les chrétiens, quand même.
Non, mais ça peut être un sujet. Mais
ça le reste pour
non,
moi.
Je veux dire... Non, mais si, aujourd'hui, si vous dites que c'est une question
oui, je suis d'accord,
non
elle
négociable,
est réglée,
vous
elle
ne trouverez
politiquement.
Pas... Non, mais
elle
vous ne trouverez pas, aujourd'hui, simplement, si vous dites que c'est une question non négociable, vous ne trouverez pas un seul parti politique qui s'apprête à remettre en cause
je suis d'accord.
Cette
ça
loi.
Ça n'est pas un sujet
donc,
politique,
elle est,
c'est certain.
Dans la culture, elle est réglée. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire, je ne porte pas...
On est d'accord, on est d'accord.
Deuxièmement, on demande aux évêques de se prononcer et on leur demande de se taire. On leur demande les deux choses à la fois. On leur dit... quand même, c'est une honte, vous dites rien, vous êtes des chiens muets, alors que vos prédécesseurs, eux, ils avaient quand même quelque chose à dire, et puis ils osaient le dire. On pourrait citer Albert Rouet et quelques autres dans le passé qui semblent aujourd'hui très lointains. Mais on leur dit aussi, non mais attendez, arrêtez de nous faire la morale, arrêtez de nous dire comment penser, on est des adultes, on est des laïcs, et puis il y a eu les abus sexuels, donc une église qui se situe en surplomb de société, c'est fini. Donc les pauvres, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Franchement, c'est une mission impossible de se taire et de parler à la fois. Enfin, c'est ce que j'essaie parfois de faire, mais c'est pas toujours facile, croyez-moi. Troisièmement, moi j'ai beaucoup étudié la déclaration de Mgr Saliège en 1942 sur la déportation des Juifs. Et récemment, en repensant à cette déclaration, il y a une chose qui m'a frappé, c'est pas de la théorie. Et là, on est dans la théorie. C'est-à-dire, on va voter pour des candidats que l'on préfère, pour des idées qui sont plus importantes pour nous. Si nos problèmes ont la forme d'un marteau et d'un clou, ben on tapera toujours sur le même clou. Donc, on va voter en fonction de ça. Mais ce que fait Mgr Saliège en 1942, d'ailleurs, il ne le fait pas en 1940. Ce que fait Mgr Saliège, ce n'est pas de protester de manière vague, générale, théorique, préventive, contre le pétainisme, contre la collaboration. Non, non, il proteste en 1942 contre des scènes qui se sont réellement produites à proximité de son diocèse de Toulouse, dans les camps de Noé et de Recebédou, quand on a déporté des enfants et des femmes et quelques vieillards juifs, parce qu'ils étaient juifs. Donc, ce que je veux dire, c'est que la conscience chrétienne, il me semble qu'elle a une espèce d'évidence dans des situations particulières. Quand il y a c'était récemment le cas d'un député du Rassemblement National qui insinue que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait pas été pu être ministre ou une bonne ministre ou une ministre loyale parce qu'elle a une double nationalité et qui donc la renvoie en fait à son origine ethnique, nationale et donc remet en cause la sincérité de ses convictions républicaines et françaises, moi je peux dire que ça me choque, et comme ça me choque d'entendre les propos antisémites que j'ai évoqués dans les milieux LFI. Mais j'ai envie de le dire là concrètement. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est un fait. C'est un fait, c'est une situation. Et je pense que moi j'attendrai des évêques que dans des situations, par exemple quand il y a eu le débat sur l'euthanasie, il était important que des évêques parlent et prennent position. Peut-être auraient-ils pu le faire davantage, peut-être aurait-on pu aussi les écouter davantage quand ils l'ont fait, parce que là, il y avait une situation concrète. Ce n'était pas le macronisme en général, c'était une loi déposée par un certain gouvernement avec un certain contenu et un vrai danger.
Elisabeth Geffroy.
Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire immédiatement, Jean-Pierre, je suis d'accord. Et moi, je pense que là où j'attends le plus une prise de parole des évêques, c'est sur les sujets où l'Église, pour le coup, a tranché. Quand on parle de l'euthanasie ou de l'avortement, ou même de la vision de la famille, effectivement, il y a une forme de relativisme, ou en tout cas de sujets qui parfois ne sont plus abordés politiquement, ou en tout cas, on n'attend plus du politique qui revienne sur certaines lois. Mais l'Église, elle, maintient totalement sa position, ne la relativise absolument pas, et ça peut-être le rôle des évêques, comme des veilleurs dans la nuit, de rappeler ici ce qu'est le discours de l'Église.
Même si c'est validé par la culture et le politique, qui n'en font pas des sujets.
Bien sûr. Là-dessus, l'Église est un signe de contradiction dans le monde. Alors, c'est pas une position confortable, je ne les envie pas d'avoir à faire ce travail-là, mais le fait est que je pense que ça fait partie de leur travail aujourd'hui, même si c'est compliqué. Et quand vous disiez, Antoine-Marie, que peut-être que ce qui faisait venir au premier plan le sujet des migrants, c'était que les sujets autour de la vie, notamment, sont des choses en fait très acquises par les catholiques, et donc on n'a plus besoin d'y revenir indéfiniment. Là encore, je suis d'accord. Je pense que sur la grosse majorité des masses catholiques, je suis sûrement d'accord avec vous. Mais typiquement, la tribune qui est notre point de départ, la tribune des catholiques de gauche qui appelle à faire barrage au RN, cette tribune-là, moi, je m'étonne de son silence sur ce sujet-là. Oui. C'est quand même un sujet majeur. On s'apprêtait à avoir un débat sur l'euthanasie. On a constitutionnalisé l'IVG en début d'année. Je ne comprends pas leur manque de scrupules, leur silence qui est lourd et qui est pesant sur ces questions-là. Ça a l'air de ne même pas effleurer leur esprit, de même pas les déranger. Donc là, je leur fais un procès d'intention et je pense qu'en réalité, ça les dérange. Mais je ne comprends pas qu'on puisse faire un texte politique sans ne serait-ce que émettre ce petit bémol en disant, en appelant à faire barrage contre le Rassemblement National, nous appelons de facto à voter pour des gens qui, eux, ne partagent pas cette vision de l'homme et de la vie qu'a l'Église. Et sur le sujet des migrations, c'est marrant parce que je trouve qu'ils ont ils sont à mon avis dans une forme de mélange déjà entre la théologie et le politique, entre l'ordre naturel, l'ordre surnaturel. Ils ne respectent pas tout à fait l'autonomie des ordres chers à Saint Thomas et à l'Église. Ils ont une lecture de la parabole du bon samaritain qui franchement est littéraliste. Je dis pas fondamentaliste,
c'est-à-dire
qui en tout cas est littéraliste. Bah, ils prennent la Bible, ils prennent l'épisode du bon samaritain et ils disent du coup on peut en déduire ipso facto une politique d'immigration et donc notamment l'accueil inconditionnel ou presque inconditionnel, après il y a toutes les nuances à la gauche, du migrant. Mais l'Église, à partir de cette parabole-là, qui n'est pas un programme politique, qui n'est pas un manuel politique, qui est une indication morale, une réflexion, une méditation du Christ qui est complexe, qui a plein de volets, à partir de là, l'Église a produit un enseignement qui lui est très complexe. Et la position de l'Église sur la question migratoire est infiniment complexe, infiniment subtile, équilibrée. Elle prend en charge le souci du plus vulnérable qui est jeté sur les routes et le souci des pays d'accueil, en disant que le pays d'accueil, enfin dans le pays d'accueil, les gens ont droit à une vie pacifique et digne, qu'un pays a droit à sa propre continuité historique et à maintenir sa physionomie culturelle déterminée, etc. Donc l'Église n'aplanit pas la difficulté de la question migratoire, elle la prend en charge pleinement. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que ces chrétiens essayent de nous faire croire que l'Église, quand on est catholique, on ne peut avoir qu'une seule position là-dessus. Et là-dessus, je pense qu'il manque d'un certain sens de la contingence, d'un certain sens de la distinction des ordres, et ils ne rendent pas hommage à la politique, à la noblesse du politique et à l'épaisseur du dilemme politique.
Est-ce que clivage, c'est... Allez-y, Antoine.
Non, je voulais rebondir sur ce que disait Elisabeth Geffroy à l'instant sur l'absence criante du sujet famille, avortement, euthanasie, de ce que ça pourrait faire réagir ces chrétiens de gauche. Effectivement, pour moi aussi, ça a été la première réaction. De se dire, évidemment, on peut comprendre cette volonté de faire barrage, ou en tout cas de s'opposer à une politique très, très radicale en matière d'immigration côté RN, mais oublier ce volet-là de ce qui constitue notre engagement de chrétien, de catholique dans la société, c'est à mes yeux tragique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en viens à me dire que entre deux tours, dans des duels Front Populaire, Nouveau Front Populaire et RN, les évêques pourraient appeler à voter blanc. Alors peut-être qu'ils ne le feront pas tous ensemble. Et puis je vais vous dire, moi je commence à en avoir marre de voter blanc depuis quelques années. Ça, c'est un autre débat. J'en viens quand même à la parole des évêques. N'oublions pas, mais vous l'avez certainement dit depuis une semaine sur cette antenne, ils ont sorti un texte il y a quelques jours qui effectivement ne se positionne pas. Donc c'est aussi la nouveauté, je dirais, par rapport à des élections préalables. Donc on voit bien que là aussi, tout a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. D'abord, il y a des choses qui ont changé chez les catholiques. Ils lisent comme nous les sondages publiés par le groupe Bayard et par la Croix, où on voit qu'il y a plus de catholiques qui votent RN, qu'il y a plus... Car, comme le disait Jean-Pierre Denis tout à l'heure, il y a aussi des jeunes catholiques qui vont se tourner vers les filles. Enfin, voilà. Donc les évêques ne se sont pas prononcés de façon explicite, en tout cas pas au premier tour, parce qu'en plus, au premier tour, je dirais que vous n'avez pas encore l'embarras du choix, on n'a pas les 38 listes des européennes, mais vous avez encore la possibilité de voter à peu près pour quelqu'un qui vous ressemble, la plupart du temps, qui vous ressemble, qui correspond à vos attentes et à compagnie, au bien commun, on en a parlé plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette parole des évêques qui, en fin de compte, est une prière. Et en cela, moi, je trouve que c'est une belle chose, en tout cas nécessaire, de nous inviter dans les paroisses à prier pour le bien commun, et les évêques font un bond au-dessus des élections. Alors c'est vrai que c'est un peu
je repose
étrange,
ma question.
Mais ils nous mettent déjà au 8 juillet, parce qu'ils savent que ça va être chaud. Enfin, je veux dire, on ne va pas se le cacher ici.
Quand Jordan Bardella dit, il y a ceux qui voient, il a dit ça dans le débat, il y a ceux pour qui l'immigration est un projet et ceux pour qui l'immigration est un problème. Est-ce que c'est ça Alors ça peut être une punchline, ça peut être un slogan, mais est-ce que le débat s'articule en fait autour de ce clivage-là? C'est ça ma question. Vous êtes allé naturellement sur la question du bon samaritain, de l'accueil de l'étranger. On voit bien que ça se polarise sur cette question.
C'est le cœur du texte. Donc,
est-ce qu'on peut résumer à ça, Jean-Pierre?
Il a aussi fait une sorte de clip ou de petites vidéos sur TikTok pour expliquer, en s'adressant aux femmes, à quel point il était complètement en phase avec les évolutions de la société sur un certain nombre de questions, par exemple sur l'avortement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être ce sujet n'a pas lieu d'être dans les prises de position des chrétiens, me semble-t-il, parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un consensus politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti politique qui défendrait plus particulièrement des idées qui pourraient être proches de celles des catholiques, à supposer que tous les catholiques soient d'accord sur ce sujet.
Ce qui serait d'ailleurs assez
étonnant. Donc il n'y a pas vraiment de consensus. Je voudrais faire une petite.
Cela dit, vous pointez je vous redonne la parole. Vous pointez un point. Vous pointez une chose intéressante. Il faudrait savoir combien de catholiques sont vraiment en accord avec la position que vous avez défendue sur la vie. Je suis pas sûr qu'il y ait des sondages extrêmement.
Ah, mais ça ne fait pas du tout l'unanimité.
Ouais.
Ça ne fait pas du tout l'unanimité.
On n'a pas d'éléments récents sur le sujet.
Non, mais aller dans n'importe quelle paroisse. Vous savez, il y a une chose qui est quand même fondamentale, c'est que l'Église catholique et les catholiques vivent pas sur une île. ils vivent dans la société. Donc, ils sont immanquablement imprégnés par la culture ambiante et en accord, parce que d'ailleurs, sinon, c'est un peu insupportable de vivre dans une société dans laquelle vous êtes constamment en désaccord avec tout le monde et en accord uniquement avec vous-même. Donc, je pense que les catholiques sont culturellement toujours sous l'influence ou imprégnés par la culture majoritaire.
Et par la force des choses.
Par la force des choses. Et a fortiori, quand le catholicisme devient une minorité, et une minorité qui est plutôt sur le repli culturellement, et bien forcément, on a tendance à adopter des idées, des mœurs, des valeurs qui sont celles de la société dominante. Ça s'est toujours vu dans l'histoire, et c'est pas non plus particulièrement étonnant que ça se produise aujourd'hui. Il y a une chose, quand on a évoqué la tribune des catholiques, moi, dans le sondage de la Croix, sur les catholiques pratiquants réguliers, alors il faut prendre ça avec des pincettes, parce que malheureusement, les catholiques pratiquants réguliers étant très peu nombreux, trop peu nombreux dans la société française, l'échantillon est petit, donc il n'est pas forcément complètement représentatif. Mais j'étais frappé par le fait qu'il y en avait certes beaucoup qui disaient qu'ils étaient pour le Rassemblement national, mais il y en avait aussi beaucoup qui étaient pour la France insoumise. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais peut-être 1/10. Je me suis demandé qui, à quelle sociologie en fait cela correspondait.
Le RN tombe à 28%, soit le même niveau que la gauche.
Oui, il y a un renouveau des catholiques de gauche dans la jeune génération. Il est peut-être pas quantifiable dans les sondages, quoique là il y a peut-être quelque chose qui apparaît. Moi je me souviens d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, des articles sur où sont passés les cathos de gauche. Il y a un retour des cathos de gauche, peut-être aussi d'abord à la faveur des questions d'écologie, hein, Laudato si, et c'est assez frappant dans ce sondage. Donc c'est pas seulement peut-être la question des migrants, je pense que c'est aussi les questions écologiques qui, elles aussi, sont d'ailleurs complètement absentes de cette campagne électorale. Enfin, c'est comme s'il n'y avait plus d'enjeux climatiques, environnementaux, ça a totalement disparu.
Oui, le focus, c'est vraiment réduit à quelques questions. Antoine-Marie Zohar.
Non, c'est juste sur l'analyse de Jean-Pierre à l'instant. Je ne suis pas tant sûr qu'il y ait un renouveau des cathos de gauche qu'un renouveau de la parole des cathos de gauche.
Chez les jeunes intellectuels.
Un peu désinhibés, les cafés à Lyon, à Paris, machin. Et tous ces jeunes qui, les revues, alors limite, n'est pas resté, n'a pas survécu, mais et puis il n'était pas forcément de gauche, mais il y avait là aussi un mélange intéressant de positions. Et donc je pense que c'est plutôt une parole un peu plus libérée, si j'ose dire. C'était tout. C'est tout ce que je voulais dire.
Est-ce que du coup, si on doit conclure, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de conclure, mais est-ce qu'il faut renvoyer les extrêmes dos à dos ? Est-ce que l'attitude qui consiste à renvoyer les extrêmes dos à dos, ça vous paraît être finalement le sommet de la sagesse ou alors au contraire une forme de désertion ? Elisabeth Geffroy.
Moi, je ne les renvoie pas dos à dos parce que je ne les mets pas sur le même. Enfin, si on parle en tout cas du nouveau Front Populaire d'un côté et de l'alliance entre Ciotti, enfin les LR de Ciotti et le Rassemblement National de l'autre part, aucun ne m'enthousiasme, mais il y en a un qui m'effraie et vraiment, enfin, qui m'effraie, le mot, je pense, est faible. La vision de l'homme, de la France insoumise, son rapport à la violence, cette acceptation de la violence jusque dans des discours théoriques qui ouvrent la porte à une violence qui n'est pas simplement tolérée, mais qui est justifiée et qui donc ensuite n'a plus qu'à se déverser. Moi, je n'arrive pas, j'avoue, à les mettre sur le même plan, ne serait-ce que par cet angle-là. Et en tant que chrétienne, je partage avec Jean-Pierre ou Antoine-Marie le fait qu'aucun de ces blocs qui nous sont proposés ne sont réellement satisfaisants. Aucun ne peut correspondre pleinement à notre vision de l'homme. Donc ensuite, on va se retrouver à discerner dans les zones grises de la contingence. Quoi.
Et pour vous, c'est la logique du moindre mal.
Mais je ne les renvoie pas dos à dos. C'est plus une logique de moindre mal, tout à fait. Je pense que c'est un bon résumé. Mais en tout cas, je ne peux pas les renvoyer dos à dos parce que je vois un ingrédient dans l'un de ces blocs-là que je trouve, qui en fait, pour moi, fait une différence de nature et se met en rupture par rapport aux autres formations politiques.
Antoine-Marie.
Non, moi je pense qu'une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mettre dos à dos les extrêmes, c'est faire le jeu d'Emmanuel Macron, d'un Emmanuel Macron qui a quand même fortement, on l'a dit pendant une heure, ou en tout cas la première demi-heure, fortement déçu, et dont l'échec est palpable, y compris ou d'abord peut-être aussi pour les catholiques et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Maintenant, je répète que je serais tenté d'essayer de voir si le vote blanc, si on en parle au cours de la semaine qui suit et qui vient. Voilà, je pense que ça va être une des questions pour certains.
Interrogation sur l'hypothèse.
Sachant qu'on sait ce que c'est que le vote blanc, malheureusement. Enfin, voilà.
Allez, très court, Jean-Pierre.
Oui, vous faites du Macron, mon cher Louis, je suis très étonné, avant le micro. Vous faites du Macron, en fait, c'est l'histoire d'un type qui distribue la peste et le choléra, et puis qui vous appelle derrière, vous envoie un petit message en disant « J'ai l'antidote à la peste et le choléra, il va falloir payer, et si vous ne voulez pas avoir ni la peste ni le choléra, il va falloir venir chez moi. » C'est un peu la situation. Petite remarque
très rapide,
je suis très frappé qu'on parle de vote contre, et c'est la crise de la politique, elle est là. Aujourd'hui, on n'a plus d'espérance, et c'est peut-être là que les chrétiens pourront revenir et être utiles.
Merci de l'avoir dit ce matin. Merci à tous les trois, Elisabeth Geffroy, Jean-Pierre Denis et Antoine-Marie Zohar. Bonne journée.